Okay, moi aujourd'hui, je voudrais partager quelques paroles avec vous. C'est juste une pensée encore qui est sur mon cœur et que j'aimerais vous laisser. Si vous voulez un titre ou peut-être un thème ou un sujet, vous pourriez noter une démarcation. Et je vais tout de suite vous expliquer de quoi il va être question. Vous savez, moi, ce qui me plaît dans toute cette période et dans tout ce temps, c'est que même si évidemment on sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre, hein, d'accord ? Je pense que vous le savez. Sinon, je vous en informe. Et c'est parfois les gens se posent la question, est-ce que en tant que chrétien on peut ou on doit ou est-ce qu'on a le droit de fêter Noël, tout ça? Et la question peut se poser, mais en fait, c'est pas tellement est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est bien de fêter Noël ou pas. La question c'est est-ce que c'est bon de célébrer la venue de notre Seigneur et de notre Sauveur? Et à cette question-là, on peut répondre évidemment oui, et c'est bon de le faire tous les jours. Et pourquoi pas le 25 décembre? Et pourquoi pas dans cette période où tout le monde est un petit peu orienté, même si évidemment ça a pris beaucoup d'autres significations aujourd'hui, les fêtes, mais c'est un bon moment pour se rappeler de la venue de notre Seigneur et Sauveur, de se rappeler que Dieu lui-même s'est fait homme et qu'il est venu nous rencontrer, et plus encore que juste ce bébé Jésus que les gens regardent aujourd'hui à Noël, et ben nous on sait que Jésus n'était pas juste resté qu'un bébé, mais qu'il a accompli l'œuvre qui allait complètement révolutionner le monde et qui allait révolutionner l'univers tout entier et qui a révolutionné ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas, ça, vous aurez l'occasion. Et mon thème aujourd'hui, mon sujet, c'est une démarcation. Et je trouvais que c'était une bonne occasion entre Noël, Nouvel An, tout ça, où on commence aussi un peu à parler des résolutions, des objectifs pour l'année prochaine et tout ça, et bien de parler de démarcation. Alors, démarcation, c'est quoi? Une démarcation, la définition, c'est une limite entre soit deux régions, soit deux pays, ou entre deux choses, tout simplement. Entre deux territoires, une démarcation, on pourrait dire que c'est une frontière. Hein. Ou encore, un autre signification du dictionnaire, c'est tout ce que j'ai pris comme note aujourd'hui avec moi, mais c'est aussi une distinction entre deux domaines. Et vous savez que même dans le domaine de l'histoire, en général, on parle de « avant Jésus-Christ » et après Jésus-Christ. Donc on voit comment Jésus a révolutionné, a marqué une ligne de démarcation, même dans notre calcul du temps. Et moi, dans ma vie, ça a marqué une ligne de démarcation. Quand j'ai rencontré Jésus, il est clair que avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, c'était pas la même chose. Et encore au cours de ma vie avec Dieu, il y a des moments où je peux dire que là, il y a une démarcation. Je sais qu'à cette période-là, il s'est passé quelque chose parce que Dieu m'a parlé d'une façon, parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie et ça a mis une démarcation. Il y avait avant et après. Et vous savez, même cette année, il y avait avant 2013 et il y aura un après. Et il y a eu une période et par exemple au mois de septembre, il y avait un avant septembre où Centre Zoé Strasbourg n'existait pas et un après septembre où Dieu a parlé et où nous sommes là. Et où des choses sont en train de se passer. Et ça fait plusieurs semaines que je vous excite un peu. Et que plus précisément le Saint-Esprit nous excite à être attentif à ce que Dieu fait, à son œuvre. Et je le répète encore, la ferme conviction qu'il y a des choses qui sont sur le point d'être manifestées. Et en ce temps de Noël et de nouvelle année, tout ça, j'aimerais juste regarder avec vous deux, trois choses et notamment au sujet de la naissance de Jésus. Et comment, dans même la naissance de Jésus, il y a des choses qui doivent pouvoir nous interpeller par rapport à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et par rapport à ce que Dieu veut faire en nous, mais aussi à travers nous. Et je peux pas me retenir que de vous dire qu'il y a quelque chose là, à l'intérieur de vous, qui doit venir à la naissance. Il y a quelque chose qui doit naître, qui est sur le point même de naître. Et depuis 2-3 semaines, on reçoit comme ça des paroles de Dieu où on est motivé, on est poussé vraiment à s'attendre à lui, à s'attacher à sa parole et à persévérer, à tenir ferme, pardon, et puis aussi à vraiment nous attendre à même des choses jamais vues, hein. Et quand j'entends tout ça, je me dis waouh, mais peut-être quelle prétention ou quelle audace que de croire ces choses-là, mais en même temps quelle prétention ou quelle audace de Marie et de Joseph que de croire cette parole de l'ange. Et puis de porter cet enfant et d'amener le Fils de Dieu physiquement à la naissance sur la terre. Et évidemment, au-delà de l'aspect physique, il y a des choses qu'on peut regarder qui vont nous parler, je crois, dans ce temps qu'on vit et peut-être ce temps de fin d'année. Mais au-delà de ce temps de fin d'année, ce temps de transition ou de démarcation qui est là devant nous. Et je crois vraiment que le Seigneur propose à, à plusieurs, sinon à tout le monde, et aussi en tant que communauté, en tant qu'œuvre, comme si on est vraiment dans un temps de démarcation. Et dans peut-être quelques mois ou quelques semaines ou quelques années, on dira, mais en décembre 2013, il y a quelque chose qui a bougé, et on sait qu'il y avait avant et puis il y avait après. Et moi, il y a des choses que je commence à voir. Vous n'en voyez peut-être pas encore, mais moi, je commence à voir des choses, et bientôt, on aura l'occasion d'en parler. Et c'est clair qu'on est vraiment dans un temps particulier. Je veux vous encourager. Vous savez, quand Jésus est arrivé dans ma vie, quand il est arrivé dans votre vie, quand vous l'avez rencontré, vous avez entendu l'évangile, vous avez réalisé que tout seul, vous pouviez pas être agréable à Dieu, vous pouvez pas vous en sortir, vous vous êtes repenti, et puis vous êtes né de nouveau. Et là, Dieu a recréé votre esprit, vous a régénéré, et il y a eu un changement radical, une démarcation. Et je sais pas pour vous, mais moi je suis capable de dire qu'en mars 1993, il y a eu une démarcation dans ma vie. Parce que Jésus m'a rencontré, que j'ai pu répondre à son appel, et puis quelque chose a changé. Maintenant, il est là dans mon cœur, il est là dans ma vie, et il y avait avant, et il y avait après. Et la parole déclare que, notamment, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Donc on est passé d'un côté à l'autre. De la barrière, de la frontière. Il nous a arrachés au péché, à la malédiction pour nous amener dans une position où nous sommes ses fils et filles, où nous sommes rachetés, renouvelés, régénérés, et où nous sommes au bénéfice de l'action, de l'œuvre, de sa grâce, où nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a accompli, où nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a remporté la victoire, où nous sommes guéris parce qu'il est mort pour emportant nos maladies. Même si des fois les symptômes viennent nous embêter, moi, il y a une espèce de tout qui essaye de jouer avec moi, mais je suis guéri, parce que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et toutes ces choses-là, nous pouvons en jouir, parce qu'un jour, Jésus a payé le prix pour nous, parce qu'un jour, Jésus a accompli cette œuvre extraordinaire qui allait marquer une démarcation. Et qui devient efficace, vivante, pour chacun d'entre nous, quand par la foi, nous croyons du cœur ce que Christ a accompli, et aussi nous le confessons de la bouche, comme le déclare la parole de Dieu, pour le salut. Et il y a vraiment des choses qui sont sur le point de se réaliser. Ça, j'en suis convaincu. Et je vous encourage en ce sens-là. Vraiment, soyez actifs dans votre foi, dans votre attente. Il y a des choses qui sont sur le point de se réaliser. Et Dieu ne va pas faire certaines choses sans nous. Mais en même temps, Dieu ne va pas non plus nous demander énormément de choses pour accomplir ses buts. Et on va voir juste quelques petits points aujourd'hui de comment Dieu veut amener cette démarcation à être une réalité, quelque chose de concret dans notre existence. Et comment peut-être aujourd'hui, ou peut-être cette semaine, ou peut-être la fin de cette année, ou peut-être les mois ou les semaines à venir pourront être un temps de démarcation pour chacun d'entre vous. Un temps où vous pourrez dire, mais là, il s'est passé quelque chose et on est passé dans un autre domaine. On est passé de l'autre côté de la barrière, de la frontière. Pardon. Et je vous invite à regarder avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, et on va regarder juste brièvement comment Jésus est venu sur cette terre, dans sa partie incarnation, si on peut dire, dans cette partie où il va naître et où Marie va lui donner naissance. Et je voudrais juste vous montrer deux, trois choses ici. Et je crois que Dieu veut et va nous parler à travers ça. Donc Luc, chapitre 1er, je ne vais pas vous faire l'histoire de Noël, Noël est passé, vous avez peut-être profité pour lire ou écouter l'histoire de Noël. Mais vous savez, l'histoire de Noël, c'est pas juste l'histoire d'un jour où Jésus est né. C'est pas juste l'histoire du 24 ou 25 décembre où on va lire ça assis dans notre salon, un petit peu comme une tradition. Mais l'histoire de Noël, j'ai envie de dire que ça peut être l'histoire de chacune de nos vies. Et l'histoire de Noël, c'est en fait l'histoire de la réalisation et de la naissance et de la mise en œuvre de chaque parole de Dieu. Et Noël, c'était la réalisation de la parole de Dieu selon laquelle il enverrait son Fils en tant qu'homme sur la terre pour nous sauver, pour nous délivrer. Et aujourd'hui, dans ta vie, dans ma vie, ça peut être comme un Noël, ça peut être comme ce jour où va naître une parole, une promesse de Dieu. Et demain, et après-demain, et la semaine prochaine, ou le mois prochain, cette histoire de Noël peut devenir une réalité dans chacune de nos vies si nous avons une parole de Dieu qui va être amenée à l'existence. Et aujourd'hui, c'est peut-être le moment où une parole de Dieu, ou une promesse de Dieu va venir à l'existence. Et vous savez, il y a tout un processus pour une naissance, Et autant que parfois physiquement, peut-être la femme va avoir une forme de souffrance et va devoir se donner et se dépasser largement physiquement. Et peut-être que parfois on a l'impression qu'on doit se dépasser dans nos efforts, on doit surmonter plein de choses. Mais amener à la naissance les plans, les promesses, les paroles de Dieu, eh bien, ça peut parfois supposer aussi qu'on ait l'impression de devoir se dépasser, de devoir pousser. On a aussi notre part à faire. Et Dieu a envoyé sa parole, Dieu sème sa parole, et si Dieu dit c'est le moment maintenant, eh bien il va falloir pousser, si j'ose dire. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu disait pour certains d'entre vous, poussez, poussez, amenez cette naissance, laissez la promesse de Dieu, laissez cette parole qui est là dans votre cœur. Et pour certains, il y a des choses qui sont là et qui sont comme endormies, ça leur dit, laissez ça venir à l'existence, amenez à la naissance, je vous ai donné ma parole, je vous ai choisi, et comme il l'a dit à Marie, on va y venir, mais je peux pas m'empêcher que de laisser sortir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et comme il a dit à Marie, tu as trouvé faveur et par toi ce fils viendra à l'existence, tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu. Et à travers toi, il y a des projets, il y a des plans particuliers. À travers ta vie, il y a des talents que Dieu a donnés, il y a des idées originales, il y a des projets particuliers que Dieu a mis en toi, et tu as trouvé faveur auprès de lui, pardon, pour que par toi, ces choses-là viennent à l'existence. Et il va falloir qu'on l'accepte. Qu'on l'accepte, et aussi qu'on participe à ce que ces plans de Dieu viennent se réaliser. Mais la bonne nouvelle, c'est que vraiment sa grâce et sa faveur sont disponibles pour ça, et c'est la pensée vraiment que Dieu nous donne, nous propose ce soir, et je crois que c'est comme une invitation encore de plus, et si ce n'est pas une incitation encore de plus, Dieu nous dit mais laisse donc sortir ce que je t'ai donné, laisse donc venir, laisse donc se manifester ma promesse. C'est comme s'il n'y a plus à attendre certaines choses. Il y a des choses qui sont là et qui doivent maintenant être amenées à l'existence. Donc la naissance de Jésus, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, et on va prendre le verset 26. Par exemple, le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi !» à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et je m'arrête déjà là, et j'ai envie de vous dire, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite de la part du Seigneur. » Et Marie savait que si l'ange venait, que si Dieu lui-même venait la rencontrer, il disait « Je te salue, une grâce t'a été faite ». Certes, elle était troublée, parce qu'elle savait que ça voulait dire quelque chose. Elle savait que Dieu ne rencontrait pas quelqu'un en vain. Et laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas cherché et Dieu ne t'a pas rencontré par hasard ou en vain. Dieu nous a cherchés de là où nous étions, il nous a arrachés de notre vie misérable, ou peut-être apparemment à peu près correcte, mais en réalité nous savions que nous étions destinés finalement à la destruction, à la mort. Il nous a arrachés de là, et il nous a chéris, il nous a restaurés, il nous a sauvés, il nous a délivrés, c'est pour quelque chose. Et cette grâce dont on se réjouit, cette grâce qu'on peut célébrer à travers nos chants, nos prières, tout ça, c'est pas juste quelque chose qui était une fin en soi, c'est quelque chose à travers lequel Dieu vient nous rencontrer, mais il a une idée, entre guillemets, derrière la tête. Et de la même façon que Marie va être troublée, bah parfois on peut être un peu troublé en se disant mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Et c'est une des grandes questions qu'on rencontre souvent dans notre ministère pastoral, de gens qui nous disent mais comment je fais pour savoir qu'est-ce que Dieu veut? Comment je fais pour trouver la destinée de Dieu dans ma vie? Et c'est vrai qu'on a certaines clés qu'on peut donner, mais en fait, c'est parfois, je vais pas dire frustrant, mais personne d'autre n'aura la réponse à la destinée personnelle de quelqu'un que la personne elle-même. Parce que Dieu va vous parler dans votre esprit, dans votre cœur, et il va vous diriger. Et votre part, ça va être d'apprendre à entendre et à suivre la direction de Dieu. Et notre part, éventuellement, dans le ministère, ça va être de vous aider, de vous accompagner pour ça. Mais Marie savait que si elle recevait cette salutation-là, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier qui allait se passer. Et Jésus est venu vers chacun d'entre nous et nous a rencontrés parce qu'il a un but, un projet. Il y a quelque chose de particulier qu'il veut pour nous. Et vous avez trouvé grâce auprès du Seigneur, devant Dieu. Et voici verset 31, ce pourquoi Marie avait trouvé grâce. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et parfois, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous rencontre, on dit, mais comment Dieu pourrait faire quelque chose avec moi? Ou encore, quand Dieu vous donne une vision ou un appel, je sais pas pour vous, moi ça m'est arrivé, que l'appel de Dieu se présente à moi, et je me dis non. Et parfois, Dieu lui-même vous parle, ou parfois quelqu'un vous parle de la part de Dieu, et moi je me dis, mais et je pense que tu t'es trompé de personne, parce que ça, comment ça pourrait se faire? Vous savez, quand il y a déjà pas mal d'années, un jour, quelqu'un s'est mis devant moi et m'a dit, tu sais, le Seigneur me parle, il me montre quelque chose, j'ai l'impression à ton sujet. Et voilà, je te voyais, tu vas enseigner la parole de Dieu, tout ça. Ouais, j'étais là dans mon cœur et il disait, mais tu te gourres complètement, quoi. T'es complètement à côté de la plaque. Moi, c'est pas ça mon projet. Et puis, de toute façon, je suis timide. Et de toute façon, je sais pas m'exprimer. Et vous, ça vous amuse parce que vous me connaissez maintenant une bonne dizaine d'années plus tard. Mais à l'époque, j'étais timide et j'étais loin d'imaginer qu'un jour, j'enseignerai avec relativement d'aisance la parole de Dieu. Mais Dieu savait. Et Marie, c'était pareil. Elle disait, mais comment ça peut se faire? Moi, je connais pas d'homme. Elle regardait juste la partie naturelle et logique de la chose. Et c'est vrai, elle était vierge, elle était fiancée, mais elle respectait les règles, entre guillemets. On sait comment ça doit fonctionner. Donc, elle pouvait pas normalement tomber enceinte. On sait qu'il y a des conditions physiques pour tomber enceinte. Je vais pas vous faire un dessin ici. Mais remarquez la réponse de l'ange. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et de la même manière, quand on se pose des questions par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à sa vision, à son plan pour notre vie, en fait, le Seigneur nous dit, « Mais c'est pas tellement toi. » Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et ce soir, c'est la parole que je vais donner à chacun d'entre nous en disant, mais peut-être qu'on se pose la question de, mais comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ce que Dieu met dans mon cœur ou ce que j'ai l'impression de devoir faire, parce que parfois c'est juste une impression, mais qui vient du Père. Mais on se dit, mais finalement, comment je vais faire? Comment ça pourra se faire? Et le Seigneur te dit, ne regarde pas à toi. C'est pas, la question c'est pas d'où tu viens, c'est pas ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance, et le Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc la question, la ressource, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai, ce que j'ai pas, c'est pas ce que les autres disent ou disent pas de moi, c'est pas ce que les autres pensent de moi. La réponse, la question, la puissance en place, en présence, c'est le Saint-Esprit qui vient sur moi, et la puissance du Très-Haut qui me couvre de son ombre pour manifester ce projet et ce plan. Et verset 36, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. 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 Et rien, c'est rien. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce qu'il a mis en toi peut venir à l'existence parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout n'est impossible à Dieu. Rien. Et dans le texte original, il est dit car, et nous on a juste rien, mais dans le texte original on trouve le mot réma. Et le mot réma, ça veut dire parole révélée de Dieu. Donc en fait, ce verset veut dire pas juste car, rien de rien, même si rien de rien n'est impossible à Dieu. Mais en fait, ce passage nous dit car aucun réma n'est impossible à Dieu. Car aucune parole que Dieu vous révèle ne peut pas se réaliser. Est-ce que c'est bien dit? Je ne sais pas. Car aucune parole révélée de Dieu ne peut faire autrement que de s'accomplir. Autrement dit, la parole que Dieu vous donne n'est jamais impossible. Il est impossible que la parole que Dieu vous ait donnée soit impossible. En fait, on prend ce verset, parfois on dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Mais pourtant, il y a plein de choses qu'on essaye qui ne se font pas. Pourtant, il y a plein de choses pour lesquelles on prie et qui ne se font pas. Mais en fait, Dieu ne dit pas que même si potentiellement rien ne lui est impossible, il est tout puissant, il a tout créé. Mais il y a plein de choses qui ne se réalisent pas et qui ne sont pas possibles dans notre vie, même en mettant Dieu dedans. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous a pas parlé. Et même si on prend ce verset en disant « Mais c'est écrit que rien n'est impossible à Dieu, donc moi j'ai demandé ça, Dieu doit le faire, c'est possible. » C'est possible. Mais les seules choses impossibles sont les paroles révélées de Dieu. Et donc si vous avez une parole révélée de Dieu, elle n'est pas impossible. Et on pourrait le rendre autrement, et d'ailleurs les versions de la Bible en anglais sont beaucoup plus proches parce qu'elles disent « Aucune parole de Dieu n'est impossible ». Ou elles disent plus littéralement que une parole de Dieu ne peut jamais échouer. Et moi j'aime cette manière de rendre le verset. Et c'est pas du tout changer le sens des Écritures, c'est repréciser et être beaucoup plus droit. Parce que parfois on prend ce rien et on est prêt à faire n'importe quoi. Et après on va dire mais pourquoi rien n'est impossible à Dieu ? Oui, rien ne lui est impossible, mais Dieu ne s'engage à ne faire en sorte que se réalise et que ne soit impossible que ce qui vient de lui, que la parole qu'il a envoyée vers nous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez une parole de Dieu dans votre cœur, si l'Esprit de Dieu vous a interpellé, si Dieu vous a parlé, si Dieu, et c'est pas si, c'est parce que Dieu a mis un rêve dans votre cœur, parce que Dieu a une destinée pour vous, parce qu'il y a une parole de Dieu qui sommeille en vous, Dieu vous dit, Dieu vous rappelle, aucune de mes paroles n'est impossible. Rien de ce que j'ai mis dans ton cœur n'est impossible. Rien n'est impossible. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors Marie dit, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Qu'il me soit fait selon ta parole. Et juste notre part, j'allais dire pour commencer, mais c'est presque aussi pour terminer, parce que ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, c'est que cette parole révélée de Dieu qui est là en nous, que l'Esprit de Dieu vient réveiller, et qu'il va réveiller en vous, si c'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà quelque chose qui commence à bouillir en vous, ça va venir, et notre part c'est qu'il me soit fait selon ta parole. Juste qu'il me soit fait selon ta parole. Notre part, c'est accepter et croire que ce que Dieu dit peut s'accomplir. Et j'ai envie d'aller plus loin que peut, j'ai envie de dire que ce que Dieu dit s'accomplira. Et comme il est dit dans Habacuc, c'est une promesse qui ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Et ce verset parle, lui, de temps fixé. Et c'est vrai qu'il y a un temps fixé pour les choses. Mais moi, j'ai cette profonde intuition, et je vous la partage, qu'il y a un temps fixé qui est maintenant. Et que maintenant, c'est le temps d'une démarcation. Et que un peu de temps s'écoulera, mais très peu de temps s'écoulera en réalité, avant que vous ne puissiez juste jeter un coup d'œil en arrière et vous dire « Waouh, là, il y a une démarcation. Il s'est passé quelque chose. Il y avait avant et il y a maintenant. Il y a une parole de Dieu, il y a une promesse, il y a une vision, il y a un appel de Dieu qui est là et qui doit venir à l'existence. » Et Dieu dit « C'est pas juste par toi-même. Juste ce que je te demande, c'est accepte, crois, fais-moi confiance. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. » Et Joseph aussi a dû l'accepter, Luc n'en parle pas, Matthieu en parle un peu. Et Matthieu nous rappelle, nous dit que lorsque Joseph a appris ça, il voulait se séparer secrètement de Marie pour faire les choses proprement, parce qu'il était quelqu'un de bien et qui vivait selon les règles de l'époque. Mais pareil, l'ange éternel lui parle et lui dit « Non, cet enfant, ça va être l'enfant de la promesse et le fils de Dieu lui-même. » Et Marie sera enceinte et elle enfantera Jésus. Et alors il est dit que Joseph, eh bien, se réveilla, se leva et fit selon ce que Dieu lui avait dit. Et moi j'aime cette manière dont Joseph a réagi. C'est-à-dire que d'abord quand il apprend ça, il fait un projet humain, il réfléchit, il dit donc comment on peut faire? La meilleure chose c'est de se séparer, de s'arrêter là, parce que c'est pas bien, c'est pas en rapport avec les coutumes, avec les habitudes. Et rappelez-vous, on a parlé l'autre fois de choses jamais vues. Et comment c'était jamais vu? Qu'une femme soit enceinte et qu'elle naisse un enfant par le Saint-Esprit. Hein, c'était du jamais vu, et pourtant c'est ce que Dieu avait fait, Joseph, pardon, aussi accepta cette parole de Dieu et fit selon ce que l'ange lui avait dit. Il obéit à ce que Dieu lui dit. Donc notre part, par rapport à ce que Dieu met dans nos cœurs, par rapport à ce temps et cette occasion, cette période de démarcation qui est devant nous, c'est accepter la parole de Dieu. C'est regarder à sa puissance plutôt qu'à nos ressources ou à nos circonstances présentes et qu'il nous soit fait selon sa parole. Selon sa parole. Et je voudrais juste encore alimenter de trois exemples dans les Écritures par rapport à ça. Le premier, et j'ai échangé avec Sophie là-dessus encore aujourd'hui, c'est dans Ézéchiel 37. Et vous connaissez cet épisode où Ézéchiel est mis devant une vision avec des ossements desséchés et Dieu lui dira, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Et Ézéchiel, dans chapitre 37, verset 3, Ézéchiel va faire cette réponse et va dire, Seigneur éternel, tu le sais. Et on sait que humainement, des os desséchés ne peuvent pas revivre. Mais Ézéchiel n'a pas juste regardé ce qui était possible ou pas humainement. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Et ça, c'est une belle attitude. C'est une bonne attitude. En fait, Ézéchiel va plutôt se fier à la connaissance et à la puissance de Dieu, de l'Éternel, au lieu de regarder juste aux simples circonstances et possibilités humaines. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est Job. Job, et c'est à la fin du livre que Job va, après toutes les épreuves qu'il a traversées, va faire cette déclaration, Job 42, verset 2. Job répond et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Je reconnais que tu peux tout. Et donc Job venait de vivre un dépouillement complet, plein de choses difficiles. Il a tout perdu. Pardon. Il est reparti de zéro. À la fin, il dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Ézéchiel, devant une vallée d'ossements desséchés, va dire, « Seigneur, toi tu le sais. » Résultat, Dieu lui donne des instructions, Ézéchiel applique, obéit, il va prophétiser sur ses ossements, et la parole nous dit que ses ossements reprennent vie et qu'une armée se lève. Ici, Job va dire, Éternel, moi je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et ensuite l'histoire nous dit que Job a été restauré au double de ce qu'il avait précédemment. Il y a une démarcation qui s'est passée là. Certes, Job était dans une bonne position, et puis il va vivre tout ce dépouillement, mais à partir du moment où il dit, Éternel, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées, Job va pouvoir se qualifier, entre guillemets, et être restauré au double de ce qu'il avait. Et puis un autre exemple, ça va être Pierre, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 21, versets 15 à 18. Donc c'est après la résurrection de Jésus, et on sait tous que Pierre est celui qui a renié Jésus trois fois, c'est-à-dire qu'on lui a demandé, est-ce que tu étais avec lui? Non, non, moi je le connais pas. Et ici, Jean 21, verset 15, Jésus qui est venu apparaître à ses disciples après sa résurrection. Jean 21, 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui ressort pas forcément en français, mais qui est important. C'est que Jésus va demander à Pierre, Simon, m'aimes-tu? Et en fait, il utilise ce terme agapé, qui est l'amour divin. M'aimes-tu plus que les autres ne m'aiment? Et Simon va lui répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime, philéo. En fait, en français, on dirait, tu sais que je t'aime bien. Hein? Et Jésus dit, Simon, m'aimes-tu? Et Pierre lui répond, Jésus, tu sais que je t'aime bien. On le rendrait mieux comme ça, on s'en rendrait mieux compte de la différence. Et une deuxième fois encore, je dis, Simon, m'aimes-tu? Et Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Et en fait, la troisième fois, Jésus va lui dire, Simon, est-ce que tu m'aimes bien? Et c'est pour ça que Pierre, quelque part, attristé, parce qu'il se rend bien compte qu'il est descendu, entre guillemets, d'un cran par rapport à ce que Jésus voulait. Mais, ce que je voudrais souligner quand même dans ce passage, c'est que les trois fois, Jésus lui dit, paix mes brebis. Autrement dit, Simon a dû reconnaître et a été relativement honnête par rapport à sa position du moment, en disant, Seigneur, ben, je sais que tu me demandes de t'aimer de cet amour divin, mais je me rends bien compte, parce qu'il y a juste quelques jours, je t'ai renié, que je t'aime bien. Mais je suis pas capable de dire que je t'aime. Mais c'est pas pour autant que Jésus allait dire, écoute, tant pis, t'es pas encore prêt, tu peux rien faire. Jésus lui dit quand même, paix mes brebis. Et ce que je voudrais vous faire voir encore ici, et comme pour Marie qui dit, mais comment ça se fera? Et l'ange lui répond, mais le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et ici encore, Pierre lui dit, Seigneur, moi je t'aime bien. Mais il a pas été capable de dire, je t'aime comme tu voudrais que je t'aime. Mais Jésus lui dit quand même, paix mes brebis. Et même si peut-être parfois on n'est pas capable de dire ou de se rendre compte que oui, je suis vraiment conforme à ce que je devrais pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Jésus nous dit, j'accomplirai quand même mon plan. J'accomplirai quand même mon plan. Et pour quelqu'un, le Seigneur te dit, même si peut-être tu penses que ça y est pas encore, mais moi je te dis, je veux quand même faire cette démarcation. Je veux quand même réaliser mon plan parce que je te prends là où tu es. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous prend là où on est, mais il nous laisse pas juste là où on est. Il nous amène ensuite à devenir celui qu'il voit et celui qu'il veut que nous soyons. 2 Corinthiens 3 du 8 nous dit que si nous le contemplons, nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur en la même image. Et donc, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, il nous dit, moi, je mets devant toi cette occasion, cette démarcation maintenant. Et même si peut-être quelqu'un se dit, mais je suis pas encore prêt, mais il n'y a pas encore ce qu'il faut, mais c'est pas encore vraiment ça, le Seigneur te dit, je veux quand même le faire, je veux quand même le faire, parce que je n'attends pas que tu sois parfaitement prêt, je n'attends pas que tu aies parfaitement les ressources. Ce que j'attends, c'est que tu acceptes ma parole, que tu aies foi, que tu aies confiance et que tu dépendes totalement de ma parole. Parce que c'est ma parole, Réma. C'est la révélation de mes paroles qui a le pouvoir de s'accomplir. Ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas ta puissance, mais c'est ma puissance qui agit en toi, par laquelle je ferai et je vais faire infiniment au-delà de ce que tu demandes et penses. Alors, quelle part est-ce qu'on va prendre? Comment est-ce que nous accueillons la parole de Dieu? Peut-être aujourd'hui, peut-être dans les temps qu'on vient de passer, ou comme je disais, à travers plusieurs des derniers messages qu'on a eus, le Seigneur nous a incité et poussé dans ce sens, mais même dans votre vie personnelle, je sais que le Seigneur vous parle, ou sinon il va encore vous parler. Et quel accueil juste on va faire à la parole de Dieu? Et en fait, ce que le Seigneur recherche, parfois on le dit, mais c'est une chose de dire, mais c'est une chose de vivre. Le Seigneur ne cherche pas des super chrétiens. Le Seigneur cherche des cœurs sincères. Le Seigneur cherche quelqu'un qui s'attachera à sa parole et qui se confie en sa parole et en sa puissance. Ça, c'est les conditions, ça, c'est les qualifications. Et même si parfois le fait que quelque chose puisse changer peut un peu nous troubler. On sait que Jésus, lui, reste le même. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc même si les choses peuvent bouger autour de nous, si on est ancré, si on est fermement attaché ou connecté, comme j'aime à le dire, à Jésus, eh bien en fait, même quand ça change, on peut traverser ce changement sans être perturbé parce que lui ne change pas. Parce que lui ne bouge pas. Parce que lui demeure toujours le même. Donc juste mon exhortation ou ma question pour vous, c'est quelle réponse allez-vous faire à la parole de Dieu? Quelle réponse allez-vous faire à cet appel, à cette exhortation et à cette, j'allais presque dire, cette insistance de l'esprit en disant je veux amener à l'existence des choses, je veux te donner une ligne de démarcation maintenant. Et est-ce que comme Marie, on peut dire qu'il me soit fait selon ta parole? Est-ce que comme Joseph, on peut dire, mais moi je ferai ce que l'Éternel a dit? Est-ce que comme Ézéchiel, on peut dire, ben, Seigneur, peut-être que humainement, je vois pas trop, mais toi, tu sais toute chose. Toi, tu le sais, Seigneur, si c'est possible de vivre ce que tu as dit que je vivrai. Comme Job, de pouvoir dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ou encore même comme Pierre, de dire, ben, Seigneur, ben, j'ai peut-être pas l'impression d'être au point et d'y arriver, mais d'entendre Jésus dire, je le ferai quand même. Et c'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous maintenant. Et c'est aujourd'hui une occasion que le Seigneur nous donne. Et moi, c'est peut-être le devoir, entre guillemets, ou le défi que je vous lancerai ou que je vous donnerai, quelque chose de très pratique qu'on va pas faire maintenant, parce que je veux que vous puissiez vraiment prendre le temps de vous mettre devant Dieu, de réfléchir pour vous-même. Mais de la même façon qu'on est en train de vivre une transition d'année, on est le 29 décembre, il reste 2 jours, mais moi, je vous proposerai un exercice pratique à faire chez vous et qui serait de matérialiser, entre guillemets, la chose et vraiment de vous poser un moment et de réfléchir et de vous dire où est-ce que je suis maintenant ou peut-être où est-ce que j'étais, mais par rapport à quoi je suis pas encore vraiment réussi à être détaché et où est-ce que je veux aller. Et de mettre clairement devant vous cette idée de dire que, ben voilà, il y a quelque chose qui change. Soit Dieu m'a parlé dans tel domaine et j'y suis pas. Donc, qu'est-ce que Dieu m'a dit et où est-ce que je suis? Et vous pourriez même, d'une manière ou d'une autre, ça c'est vous qui voyez, mais matérialiser concrètement en disant, ben maintenant je suis là de ce côté et je suis peut-être pas dans telle et telle chose, peut-être que je fais pas telle et telle chose, peut-être que je vois pas telle et telle chose que Dieu m'a dite. Et puis je vous invite à prendre soit une corde ou soit à tracer par terre ou comme vous voulez chez vous, mais tracer une ligne. Faites matérialiser ça, tracer cette limite, cette frontière, cette démarcation entre là où vous êtes et ce que Dieu vous a dit. Et puis positionnez-vous et vraiment dans un acte de consécration à Dieu et comme un pas de foi, eh bien, traversez la ligne. Et mettez-vous dans ça en disant, bah, Seigneur, maintenant je veux vraiment poser un acte. Vous savez, c'est bon de poser des actes sur notre foi. La parole déclare que la foi sans action est morte, non pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas productive. Et on sait que Dieu nous sauve, il a régénéré notre esprit, on sait qu'on doit renouveler notre âme, notre intelligence avec la parole de Dieu, mais c'est bon aussi que notre corps soit engagé dans notre marche avec Dieu et dans notre volonté d'obéir et de voir les plans de Dieu s'accomplir. Donc ça peut être bon et ça sera bon pour vous que de vraiment faire ça pour vous-même, de réfléchir où je suis, qu'est-ce que Dieu m'a dit, où je veux aller, et puis de vous tracer une ligne par terre ou de vous mettre une frontière et vraiment de vous placer devant Dieu dans un acte de consécration et de foi dans la prière, eh bien de faire cet acte-là, de traverser cette démarcation et de vous mettre de l'autre côté. Et vraiment de prendre ça comme un positionnement, une consécration devant le Seigneur. Et c'est juste entre vous et Dieu, c'est même pas pour moi. C'est pour ça que je veux pas qu'on le fasse forcément ici ou maintenant, mais faites ce pas de foi. Et tracez cette ligne et passez la ligne. Faites, vivez, prophétisez sur votre propre vie cette démarcation que Dieu vous offre, que Dieu nous offre. Et en tant qu'œuvre aussi, en tant qu'assemblée, je vais m'arrêter dans un instant, mais on prendra le temps dès les premiers jours de l'année de se retrouver aussi et de passer du temps dans la prière ensemble, particulièrement, et aussi peut-être de poser certains actes de foi, parce que Dieu a commencé à nous parler, et il va continuer de nous parler, et de nous conduire, mais chacun pour notre part. Voilà, saisissez-vous de la parole de Dieu, et agissez sur la parole de Dieu, et je vous garantis qu'on va voir des choses. Et que dans très peu de temps, on pourra se partager des témoignages de comment cette parole de Dieu, qui est pas juste aujourd'hui mon petit message, c'est même pas important si vous oubliez qu'un jour je vous ai parlé de ça, mais de comment il se sera passé un changement, une démarcation. Et j'ai même envie de dire, même ça paraît audacieux, que autant que la venue de Jésus a fait une démarcation claire entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, que ce soit dans le temps, que ce soit spirituellement, parce que avant Jésus-Christ, il est évident que l'alliance de paix et de restauration que nous avons maintenant n'existait pas. Et maintenant, après Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il a accompli. Et bien, de la même façon, vous pourrez dire dans votre vie, avant que la parole de Dieu ne soit arrivée dans mon cœur, et après, il y a une différence. Il y a une révolution qui s'est produite. Et je crois et je confesse sur vous au nom de Jésus et dans la foi que vous vivez votre démarcation. Et que c'est ce moment, cette période de fin d'année va être une révolution dans votre vie. Je le dis, je le confesse au nom de Jésus et pour la gloire de notre Père. Amen.